Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Clap, votre pause cinéma du week-end sur Europe 1, l'émission qui vous aiguille sur les films à voir au cinéma et qui, j'espère, vous donne envie de vous plonger ou vous replonger dans les univers de certains cinéastes. Le seul diplôme qu'exige le cinéma est l'amour de la vie et le courage de prendre des risques, dit Claude Lelouch, réalisateur prolifique et passionné qui fête avec son dernier film la barre des 50 films réalisés et plus de 60 ans de carrière. Et bien justement, le grand Claude Lelouch me fait l'honneur d'être mon invité cette semaine. L'amour, c'est mieux que la vie est le titre de son dernier film et on en parle avec lui à 14h20. On abordera également les films de sa vie, comme celui qui le fait retomber en enfance.
Eh bien, écoutez, Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle a le même âge que moi. On a tous les deux le même âge. On est nés tous les deux en 1937. Donc, elle m'a accompagné. Et puis, comme j'ai 7 enfants, donc je suis allé...
Oui, c'est vrai.
7 fois revoir Blanche-Neige avec mes enfants. Et comme j'ai 8 petits-enfants, je l'ai revue 8 fois encore. Et c'est vrai que c'est magique.
Dans quelques instants, je vous parlerai de la cérémonie des Lumières du cinéma qui aura lieu lundi soir sur Canal+. Cérémonie au cours de laquelle les journalistes étrangers récompensent le cinéma français. C'est en gros nos Golden Globes à nous. Et en parlant de Golden Globes et des États-Unis, Didier Allouche nous livrera son JT d'Hollywood. Enfin, en dernière partie, épaulée par mes critiques, nous ferons un tour d'horizon des sorties cinéma de Scream au documentaire Jane par Charlotte Gainsbourg. Voilà pour le programme de votre clap qui commence maintenant.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
On a appris hier la triste disparition de Jean-Jacques Benex, réalisateur mais aussi écrivain, dialoguiste, scénariste ou encore producteur. Jean-Jacques Benex était un artiste à la carrière certes inégale, mais inégalée. Il n'aura réalisé que 6 films, 3 cultes et 3 échecs. Avec lui, c'était tout ou rien. Comme Luc Besson, Benex est né professionnellement dans les années 80 en imposant un style très esthétique. D'abord Diva, en 1981, l'un des tout premiers grands rôles de Richard Bohringer et 4 Césars, dont celui du meilleur film.
Regarde, il n'y a plus de couteau, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de beurre. Il n'y a plus qu'un geste qui se répète, un mouvement, l'espace.
2 ans plus tard, La Lune dans le caniveau avec Gérard Depardieu, accueilli sous les sifflets du Festival de Cannes. Et puis évidemment, en 1986, 37-2 le matin, adaptation du roman de Philippe Djian avec Jean-Hugues Anglade et la révélation Béatrice Dalle, devenue star en un seul film. Nommé au César, 9 nominations mais un seul prix, celui honorifique de la meilleure affiche. Et nommé également à l'Oscar à l'époque du meilleur film étranger et aux Golden Globes, le film obtiendra la plus belle des récompenses, celle du public, 3 600 000 spectateurs en salle et un statut de film culte pour toute une génération.
Elle m'a fait penser à une fleur étrange munie d'antennes translucides et d'un cœur en sky mauve. Et je connaissais pas beaucoup de filles qui pouvaient se fringuer comme ça avec autant d'insouciance.
De nombreux artistes endeuillés, Béatrice Dalle qui a posté hier une photo, Zorg et Betty sont orphelins, l'une des plus belles pages de ma vie vient de se tourner, je t'aime Jean-Jacques Benex. La suite après 37-2 le matin sera plus compliquée, Roselyne et les Lions, IP5 avec Yves Montand, mort à la fin du tournage en novembre 1991, on l'accusera à demi-mot d'en être le responsable. Après cette polémique, sa mauvaise réputation enfle. 9 ans sans tourner jusqu'en 2001 pour ce qui sera son dernier film, Mortel Transfert, avec Jean-Hugues Anglade. Hélas, un lourd échec commercial. Mais ce qu'on veut retenir aujourd'hui de Jean-Jacques Benex, c'est son style, son univers, sa personnalité, un cinéaste passionné et des films qui resteront dans l'histoire du cinéma français.
Bon, tu viens ?
Non.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Eh oui, je ne résiste pas à ce plaisir de réécouter Céline Dion. Vous êtes bien dans Clap et on parle bien de cinéma avec Aline de Valérie Lemercier, le vrai faux biopic sur la vie de Céline Dion qui fait partie des films qui ont marqué cette année cinéma. Alors cette année, on a chanté avec Aline ou encore avec Annette d'Eleos Carax. D'ailleurs, je suis sûre que vous avez toujours cette incroyable BO en tête. So So May We Start des Sparks, issu de la bande originale d'Annette de Léo Scarrax, qui a d'ailleurs été retenue pour la meilleure chanson originale aux prochains Oscars. Alors, on a ri, pleuré, rêvé cette année dans les salles de cinéma. On a aussi été bouleversé par cette fin de vie injuste dans De son vivant, ses batailles contre le monde entier et soi-même dans L'événement ou encore Onoda. Et puis, on est resté bouche bée devant le spectacle des Illusions perdues de Xavier Giannoli.
J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste.
Et tu crois que c'est quoi mon métier ?
Vous éclairez les gens sur l'art. Le monde.
Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal.
Toutes ces magouilles sont du bruit, du vent. Il nous faut apprendre à jouer avec tout ça.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Bref, il y a eu de très belles surprises dans le cinéma français en 2021 et ça tombe bien puisque lundi prochain, le 17 janvier, se tiendra la cérémonie qui récompense le cinéma français. C'est la 27e cérémonie des Lumières. Si cette cérémonie ne vous dit rien, pour faire simple, ce sont nos Golden Globes français et ils fonctionnent de la même manière que les Américains. 95 correspondants de la presse internationale, issus de 36 pays différents, décernent des prix aux films français qui ont marqué l'année précédente. Ça donne donc un palmarès totalement impartial. Alors justement, parlons des nominations. On retrouve Les Illusions perdues, l'adaptation du roman de Balzac par Xavier Giannoli, qui est en tête avec 5 nominations, suivi de L'événement d'Audrey Diwan, je rappelle, Grand Prix à la Mostra de Venise, De son vivant d'Emmanuel Berco, ou encore Annette de Léo Scarrax et Onoda d'Arthur Harari, avec 4 nominations chacun, et ils concourent tous dans la catégorie du meilleur film. Comme chaque année, la cérémonie se tient grâce à une collaboration entre l'Académie des Lumières et Canal+, qui diffuse L'événement en clair, et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la présidente de l'Académie des Lumières, Lisa Nesselson. Merci d'être là.
Merci et bonjour.
Alors Lisa, c'était une année compliquée pour le cinéma français et pourtant il a quand même réussi à se faire une place dans les salles.
Ah, ça c'est certain. Je crois en tant qu'étrangère, je ne peux pas trop répéter à quel point le cinéma compte en France. La France est absolument unique par rapport au cinéma. Quand j'y pense que la plupart des films, la France a produit 200 films pendant le confinement, plus ou moins, avec tous les protocoles qu'il faut respecter. Et on continue à construire des salles de cinéma en France. Et je suis américaine, aux États-Unis, il y a plein de salles de cinéma qui ont fait faillite. Donc,
c'est vrai.
Le cinéma en France, c'est à cause de ça d'ailleurs que j'habite ici.
Et alors justement, qu'est-ce que ça représente pour vous, Lisa, d'être présidente de cette Académie des Lumières ?
Ah ben c'est un honneur, on est très terre à terre, nous sommes environ une centaine de journalistes étrangers qui travaillent en France, mais pour les supports qui se trouvent en dehors de l'hexagone. Mmh. On a plein de spécialistes du cinéma, mais pas forcément. Il y a des généralistes, il y a des gens spécialisés dans l'environnement ou la politique, mais tous cinéphiles.
Quels sont les enjeux pour vous ?
Ben, les enjeux, c'est de toujours célébrer le cinéma français. On a 13 catégories, on a des trophées magnifiques créés par la Monnaie de Paris. Moi, personnellement, j'aimerais bien gagner un, si c'était possible. Et on essaie de dire que le cinéma français, il y a l'organisme Unifrance qui fait un boulot incroyable pour promouvoir le cinéma français partout sur Terre. Parfois, je lis une dépêche qu'un film, une coproduction pour les Frères d'Ardennes vient d'être vendu en Venezuela 7 ans plus tard. Et le cinéma, je dis toujours, c'est pas comme les légumes ou les fruits. C'est le même film dans une semaine, dans un mois, dans 5 ans. Et il faut toujours garder en tête que l'art peut voyager et peut faire la réflexion de la France ou peut communiquer avec des gens partout sur Terre. Donc nous, on est en train de célébrer ce que nos académiciens ont trouvé le meilleur du cinéma français. Il y avait environ, je crois, 230 films quand même pour les partager. Je ne suis pas toujours d'accord avec les décisions des autres membres, mais c'est complètement démocratique. Personne n'a jamais essayé de nous influencer et je trouve ça formidable en France que des gens ne font pas campagne peur des prix. Mmh. Tandis qu'on investit des millions et des millions de dollars pour des Oscars, c'est bête.
On disait le cinéma français, il est très diversifié, il est très riche. C'est aussi ce que célèbre cette cérémonie, c'est la richesse du cinéma français. Je pense à des films qui sont aussi nommés comme Gagarine, voilà, des très très jolis premiers films. Est-ce que vous êtes d'accord si je dis que le cinéma français a un bel avenir et vient encore de le prouver?
Ah oui, je trouve ça très encourageant. Personnellement, j'ai eu du mal à voter pour les révélations féminines et masculines et justement pour le meilleur premier film parce que pour moi, les cinq nommés valaient tous un prix. Donc, c'était vraiment difficile à la fin.
Vous remettez un prix lundi soir, c'est lequel?
Ah, je crois qu'on m'a confié la responsabilité de meilleur film, oui. Donc, j'espère que mon visage sera raccord avec le choix de notre académicien.
Merci beaucoup, Lisa. À lundi, puisque j'ai l'honneur de présenter cette cérémonie pour Canal+, et j'en suis ravie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors, les Lumières, ce sont nos Golden Globes à nous. Justement, faisons un point sur la cérémonie des Golden Globes, qui n'a pas eu lieu, mais dont les lauréats ont été révélés en ligne, sans retransmission télévisée, ni tapis rouge. Et on peut le dire dans une indifférence totale. Le western de Jane Campion, The Power of the Dog, devient le deuxième film réalisé par une femme à remporter le Golden Globe du meilleur film dramatique. Il a également remporté les prix du meilleur donc réalisateur et du meilleur acteur dans un second rôle pour Cody Smith-McPhee. Le remake de Steven Spielberg, West Side Story, a été récompensé du Golden Globe de la meilleure comédie musicale avec, pour Rachel Ziegler, le prix de la meilleure actrice dans une comédie musicale. Et puis nous, tant qu'on peut repasser cette chanson dans l'émission, on est content. Donc donner des prix à West Side Story. Parmi les autres prix marquants, le dernier Disney, Encanto a eu le Golden Globe du meilleur film d'animation. Will Smith a eu le prix du meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams. Nicole Kidman, meilleure actrice pour Being the Richards. Et Billie Eilish a eu le Golden Globe de la meilleure musique pour la BO de No Time to Die, le dernier James Bond. Et comme il n'y a pas eu de tapis rouge, il a raté le tapis rouge des Golden Globes, mais il est sur le tapis rouge de Clap, c'est Didier Alouche pour son JT d'Hollywood. Bonjour Didier.
Salut Laurie, salut à tous. Cette semaine, la joie d'une Belge, un cauchemar en noir et blanc et Sly et Adèle font du business. Allez hop, c'est parti. Il y a bien un film francophone dans la shortlist des Oscars, mais ce n'est peut-être pas celui qu'on attendait. Juste avant les fêtes, l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, les organisateurs des Oscars, ont annoncé les 15 derniers films encore en course à l'Oscar du meilleur film étranger. Et en France, c'est la consternation. Titane, la dernière palme d'or du Festival de Cannes, s'arrête là. Le film n'est pas dans la liste. Les Oscars, c'est fini pour lui. Par contre, en Belgique, c'est la fête puisqu'il n'y a pas un, mais deux films belges toujours en course pour les Oscars. T'es morte, Hélène, le court-métrage de Michel Blanchard, fait lui aussi partie de la shortlist dans la catégorie meilleur court-métrage de fiction. Et Un monde, le remarquable film de Laura Vandel, fait lui bien partie des 15 derniers films toujours en course pour l'Oscar du meilleur film international. Il a donc encore toutes ses chances et quand elle l'a appris, la réalisatrice a eu un peu de mal à s'en remettre.
Mon attaché de presse qui m'appelle, qui était en pleurs et je ne comprenais absolument rien à ce qu'elle me disait. Donc moi je me disais, oh, bah, en fait elle pleure parce qu'on n'y est pas. Oui, donc voilà. Enfin, évidemment, au fond de moi j'avais un espoir, mais c'est tellement énorme que jusqu'au bout, justement pour ne pas être déçue, je me disais non, mais il y a peu de chance, on ne va pas y croire et en fait c'est... Non, c'est incroyable.
Youpi, je suis ravi, j'ai mon billet pour aller voir Nightmare Alley vendredi prochain au cinéma. Vous allez me dire que c'est pas si difficile que ça d'avoir un ticket pour aller voir le dernier Guillermo del Toro. Et d'ailleurs, je vous conseille largement de le faire, le film est une splendeur. Mais pour aller voir cette version-là du film, ce n'est pas si facile. Pour 4 séances seulement, à la Cinémathèque de Los Angeles, Guillermo del Toro va venir présenter en personne son Nightmare Alley dans une version en noir et blanc. Comme c'est un film noir qui rend hommage aux classiques du genre, tous en noir et blanc, Guillermo a en effet tourné son film en faisant en sorte que la lumière marche aussi bien pour chaque plan avec que sans couleur. Nightmare Alley en noir et blanc ne sera projeté que 4 fois et les billets se sont arrachés comme des petits pains. Et moi, j'ai le mien, Sinon, Sylvester Stallone est en passe de vendre sa propriété de Los Angeles, un terrain de 15 000 m² incluant une maison de 8 pièces et 10 salles de bain avec piscine, tennis et énorme salle de gym avec au milieu un ring, bien sûr. L'acheteuse, la chanteuse Adele, qui va remporter le morceau pour 58 millions de dollars. Et en plus, c'est une affaire. Au départ, Sly en voulait 80 millions de dollars. J'y suis allé une fois chez lui. Mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être qu'un jour, je vous la raconterai.
Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Merci d'être toujours à l'écoute de Clap sur Europe 1. Il est l'un des plus grands réalisateurs de ces 50 dernières années. Il a cumulé tous les prix, Oscars, Golden Globes, Palme d'Or. Il a dirigé les plus grands et les plus grandes, de Lino Ventura à Jean-Paul Belmondo, en passant par Anouk Aimée pour ne citer que. Vous l'avez compris, c'est Claude Lelouch qui est mon invité cette semaine. Bonjour Claude Lelouch.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Alors je disais, plus de 60 ans de carrière, 50 films. Qu'est-ce que tous ces films, toutes ces rencontres vous ont finalement appris de l'amour et de la vie, qui sont vos sujets de prédilection ?
Rien, ça m'a obligé à être curieux, très curieux. J'ai très vite été fasciné par le spectacle du genre humain, de ses contradictions, de ses hauts, de ses bas, de le pire, le meilleur. Je veux dire que le genre humain m'a fait voyager, je veux dire que je suis une vraie concierge. tout ce que fait le genre humain m'intéresse, donc je suis un observateur, un reporter de la vie, et donc je suis plus un metteur en vie qu'un metteur en scène. Et donc j'ai écrit 50 films à partir de ces observations, à partir de ces hommes et ces femmes que j'ai eu la chance de croiser, dont j'ai été témoin direct ou indirect, tous ces hommes et ces femmes qui m'ont fait rire, pleurer, qui m'ont filé la chair de poule. Ça m'a inspiré effectivement cette famille de films que j'ai fait. J'ai le sentiment d'avoir fait qu'un seul film finalement. J'ai filmé des hommes et des femmes qui avaient les qualités de leurs défauts. C'était pas des super-héros ni des super-salauds. C'était des gens un peu moins dégueulasses que les autres, disons. C'était des héros du quotidien qui pouvaient être aussi des salauds du quotidien. Voilà. Donc voilà, c'est avec ces hommes et ces femmes que j'ai pu faire ces 50 films. Et que le public est venu de temps en temps, voilà, nombreux. Et des fois, il a fait la gueule, comme tout le monde. Des fois, le public m'a fait cocu, voilà. Mais...
pour mieux revenir après.
Voilà, mais pour mieux revenir après.
C'était pas si souvent que ça, en plus.
Non, non.
Qu'est-ce que vous vouliez raconter avec ce film et ce titre, surtout « L'amour, c'est mieux que la vie » ?
Ben parce que c'est mon intime conviction. Je pense que tout ce qu'on fait dans la vie sans amour est du temps perdu. Je pense que l'amour, c'est quand on est capable d'aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même. Donc on bascule d'un seul coup dans la générosité. Et puis l'amour, c'est un peu comme le sport. Vous voyez, c'est une véritable compétition. Il faut arriver premier dans le cœur de quelqu'un. Dans le sport, quand vous êtes deuxième et troisième, vous avez droit à des médailles d'argent et de bronze.
C'est vrai.
Et en amour, quand vous êtes deuxième, vous êtes cocu.
Voilà.
Et ça
c'est
fait
vrai
très,
aussi.
Très, très mal. Ça fait très, très mal. Et donc, il faut garder son titre. Quand
c'est
on devient champion du
difficile.
Monde dans le cœur d'une dame, il faut garder son titre. Donc pour garder son titre, il faut s'entraîner et il faut effectivement être à la hauteur de ses rêves. Et puis surtout, conserver le mystère. Je veux dire qu'il n'y a pas d'amour sans mystère. C'est très très important qu'il y ait toujours un mystère entre un homme et une femme. Le jour où il n'y a plus de mystère, l'amour est foutu. Je suis intimement convaincu que quand on est amoureux, ça donne un sens à notre vie de quelque chose ou de quelqu'un. Je veux dire que je suis intimement, intimement convaincu que les meilleurs moments de ma vie sont des moments rattachés à ces moments où mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite pour des raisons inexplicables.
Est-ce que c'est votre histoire d'amour ? Je ne trahis rien puisque c'est officiel avec la romancière Valérie Perrin qui vous a inspiré ce film alors ?
Non, ce qui m'a inspiré ce film, c'est une somme incroyable d'observations. C'est vrai que ma rencontre avec Valérie Perrin est capitale. Vous savez, comme disait Sacha Guitry, ce qui compte, c'est de trouver sa veuve. C'est de trouver la dernière. Les autres sont c'est de l'entraînement. Voilà. Donc, je me suis bien entraîné.
Et vous avez trouvé.
j'ai fait de l'entraînement. Et puis, le jour où je me suis bien entraîné, j'ai eu la chance de rencontrer Valérie qui... évidemment, m'a flatté énormément, a flatté mon ego puisqu'elle adorait mes films. Voilà, donc et c'est vrai que c'est une très belle rencontre parce que elle s'intéresse aux mêmes choses que moi dans la vie, c'est-à-dire que les petites choses de la vie nous passionnent. on a l'intime conviction tous les deux que le bonheur est gratuit et que c'est le luxe qui est cher, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens malheureux, c'est parce que le luxe les attire, voilà. Et c'est vrai que la simplicité, les grandes choses sont gratuites, un coucher de soleil, un oiseau qui chante, un bain dans une mer relativement chaude, c'est gratuit et c'est tout ce qui est cher.
Et c'est à portée de main.
Voilà, qui crée des emmerdements. Voilà, donc malheur aux prétentieux. Voilà, et formidable pour les gens modestes, sont beaucoup plus heureux que les autres.
Il ne faut pas être trop gourmand dans la vie.
Non,
faut savoir se contenter de ce qu'on a. C'est ce que montre le film, hein, d'ailleurs.
Il ne faut pas rêver plus haut que son cul.
Ça, c'est pas mal comme formule, je vais la garder. Je rappelle l'histoire du film, c'est Gérard Darmon donc, qui incarne Gérard, un homme malade et condamné qui va vivre sa dernière grande histoire d'amour grâce à l'aide de ses deux meilleurs amis qui vont engager le personnage joué par Sandrine Bonner pour croiser sa route. Et là, la magie, bien sûr, va opérer. Et c'est exactement ce que raconte le film, c'est-à-dire oui. Savoir profiter des petites choses, être à une terrasse de café, prendre un petit déjeuner.
Oui, c'est un film qui met en valeur le présent. Je veux dire que le présent est la seule chose qui nous appartienne. Le bonheur, il passe par le présent. Tout le reste, on en est simplement les gardiens. Donc, si vous voulez, le présent, il n'a pas le temps de vieillir. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Jacques Brel, qui était dans sa dernière ligne droite, je lui ai dit « qu'est-ce que tu bois ?» Il m'a dit « une bière ». Et je l'ai vu déguster cette bière. Et je lui ai dit « mais qu'est-ce qu'elle a, ta bière d'extraordinaire ?» Il m'a dit « c'est peut-être la dernière que je bois ». Et il me dit « depuis que je fais les choses pour la dernière fois, enfin, j'apprécie la vie. Enfin, je sais ce que représente l'idée de manger un bon couscous, de faire l'amour avec une femme pour la dernière fois. Là, je te vois en ce moment, c'est peut-être la dernière fois que je te vois, donc je te déguste, je te dévore des yeux, alors qu'avant, je me disais, bon, je veux voir le loup, et puis voilà, c'était fini. » Et c'est vrai que on n'apprécie pas assez la chance qu'on a d'être en bonne santé, la chance que le jour se lève, et le sourire de certaines personnes, parce que c'est le sourire de certaines personnes qui nous rassure. Voilà. Donc j'ai essayé avec ce film d'apprendre à mieux se servir du présent, qui est la seule chose qui nous appartienne.
Pourquoi avoir choisi Gérard Darmon et Sandrine Bonner ?
J'avais envie de raconter l'histoire de Roméo et Juliette qui auraient eu le temps de vieillir. Voilà. Un Roméo et Juliette qui, quand ils parlent d'amour, ils savent de quoi ils parlent. C'est un Roméo et Juliette qui ont déroulé du câble.
Voilà. Alors c'est vous. Voilà, c'est vous, c'est ce Roméo.
Voilà. Et donc, ils savent de quoi on parle quand on parle d'amour. Roméo et Juliette, ils étaient dans les premières fois, c'était normal. Mais en même temps, c'est une histoire d'amour qui est comme une parenthèse, parce qu'elle est limitée dans le temps. Et quand les choses sont limitées dans le temps, on est beaucoup plus généreux. Je veux dire qu'on peut dire que ces deux-là vont s'aimer à 100%. 100% parce qu'on ne va pas laisser la possibilité à l'argent de casser toutes ces émotions et de pourrir la situation. C'est vrai que l'argent, qui a des qualités, puisqu'un billet de 10 euros ne se prend jamais pour un billet de 100 euros, mais c'est vrai que l'argent a tendance à polluer toutes les grandes émotions de la vie. Et, voilà. Et là, l'argent ne va jouer aucun rôle pour une fois, alors que cette histoire d'amour a été achetée.
C'est ça qui est très très beau dans le film. Il y a plein de choses, il y a des scènes aussi un peu surréalistes avec Béatrice Dalle, que vous connaissez bien, notamment l'ouverture du film, j'ai même pas envie de trop d'en parler tellement cette scène est drôle. Et c'est ça aussi qu'il faut préciser, c'est qu'on parle de mort, mais c'est un film vraiment solaire. C'est un film où il y a beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté aussi.
Oui, parce qu'on est tous le dieu ou le diable de quelqu'un. On a tous la possibilité de distribuer des récompenses ou des punitions. Et puis, je voudrais qu'on parle de Robert Hossein, parce qu'on a eu la chance de faire son dernier film.
Qui joue le père de Gérard Darmon.
Il joue le père de Gérard Darmon, et c'est vrai qu'il est bouleversant. Et je me rappelle, après le tournage, même le lendemain, il m'a rappelé en me disant « Claude, tu m'as offert ma plus belle journée de tournage. Et Dieu sait si j'en ai tourné des belles journées, si j'ai eu des très bons souvenirs, mais il était fou de joie, donc je suis très très heureux qu'on lui ait offert ce dernier cadeau.
Et surtout, quelle scène, parce que c'est vrai que Gérard Darmon est condamné, donc c'est un enfant qui va partir avant son père.
Oui, oui, ça aussi, c'est une scène très importante où on voit deux hommes qui savent de quoi ils parlent. Et quand Gérard lui dit, mais tu sais, la mort, c'est, personne n'est jamais venu pour s'en plaindre. Hein. Il n'y a pas eu de réclamation. Donc, mais en tous les cas, le père lui dit, je t'interdis de partir avant moi, quoi qu'il arrive.
Ce film est le premier d'une trilogie ?
Oui. C'est le premier volet d'une trilogie parce que, en fait, je voulais faire un seul film, mais qui aurait duré 6 heures et personne n'aurait été le voir.
C'est compliqué en ce moment, voilà.
Je me suis dit, alors, puisque je ne peux pas contourner cet obstacle, on va faire ce film en 3 temps. 3 temps qui sont tous indépendants, qui fait que les gens pourront aller voir l'un ou l'autre sans. Mais s'ils vont voir les 3, ça sera mieux. Il y aura plus de codes, il y aura plus de références. Et donc, ce deuxième et troisième opus n'auront lieu que si les gens. Ratifie le premier, parce que c'est pas la peine que s'ils rejettent le film, que je les ennuie avec un deuxième et un troisième.
Mais ils sont déjà écrits, les deux autres.
Ils sont écrits et ils sont prêts à tourner. Donc si tout va bien, on tourne en juin, le deuxième, et pendant les fêtes de Noël, le troisième.
On disait tout à l'heure, c'est un film qui parle de la mort, mais qui parle de la vie. Finalement, est-ce que aussi parler de la mort, c'est pas une façon de l'exorciser ?
J'ai pas peur de la mort parce que j'ai envie de croire que c'est une récompense, une promotion. Et que de vie en vie, on est recyclé. On recycle bien les ordures. Pourquoi on recyclerait pas les gens ? Et je pense que le meilleur de chacun d'entre nous est gardé. Et que c'est avec ce meilleur qu'on a inventé tout ce qu'on a inventé, qu'on a fait faire des progrès, qu'on a fait. Je veux dire que toutes les grandes catastrophes, à un moment donné, deviennent positives. Je suis sûr que ce Covid, à un moment donné, va nous permettre de réinventer un monde nouveau. Voilà. Et donc, comme je suis dans le positif, j'ai envie de croire que la mort est la plus belle invention de la vie.
Clap sur Europe 1. Laurie Choleva.
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap sur Europe 1 et je suis en compagnie de Claude Lelouch. L'amour, c'est mieux que la vie. Premier volet d'une trilogie sur la vie, l'amour, qui sera en salle le 19 janvier. Claude Lelouch, c'est un bonheur de vous avoir à mes côtés et c'est un bonheur de pouvoir vous interroger sur les films de votre vie. Déjà, j'aimerais connaître votre premier souvenir de grande émotion au cinéma.
Alors écoutez, mon père a acheté une caméra pour filmer ma naissance. C'était un cinéaste amateur, voilà, donc c'était une caméra Kodak. Et donc la première personne que j'ai vue sur un écran, c'est moi. on m'appelait Coco à l'époque, d'ailleurs, voilà, mes enfants, mes petits-enfants m'appellent toujours Coco. Et donc j'ai vu Coco à 6 mois, les premiers pas de Coco, donc la première vedette que j'ai vue, c'était moi.
C'est vous.
Voilà, donc je suis désolé. Donc ça, ça a évidemment massacré mon égo.
Votre meilleur souvenir de cinéma ?
Écoutez, mon meilleur cinéma, ça reste Quand passent les cigognes. Quand passent les cigognes, c'est un film russe de Mikhail Kalatozov. En 1957, je faisais un reportage à Moscou et j'ai eu la chance de passer une journée sur le plateau de ce film, qui est un film magique.
Palme d'or à Cannes.
Palme d'or à Cannes. Et c'est ce jour-là, en assistant au tournage de ce film, j'avais 20 ans à l'époque, que j'ai dit, voilà, je serai metteur en scène. Voilà,
c'est ce film qui vous a donné envie de faire
voilà,
du cinéma.
C'est ce film qui a fait de moi, j'étais reporter au départ, et qui a fait de moi un metteur en scène. J'ai dit, voilà le métier que je veux faire, parce que c'est ce jour-là que je me suis dit, qui est l'acteur principal du film ? La caméra ou l'acteur ? Parce que la caméra faisait monter le long d'un escalier et suivait un acteur, comme ça. Et donc, ce jour-là, j'ai dit, effectivement, c'est la caméra, l'acteur principal, puisqu'il tourne dans tous les films, elle est dans tous les plans, et en plus, c'est un acteur invisible. Voilà. Donc, je me suis donné beaucoup de mal pour comprendre tout ce qu'on pouvait faire avec une caméra, et c'est quand j'ai bien dominé cette caméra que j'ai pu commencer à la marier avec tous les acteurs que j'ai eu la chance de croiser.
Et donc, votre caméra reste votre meilleur acteur ?
Oui, parce que c'est un acteur qui joue dans tous les plans. Elle a joué dans tous les plans et dans tous les films. Donc c'est l'acteur vraiment principal de l'histoire du cinéma. Sans elle, pas de film.
C'est vrai. Votre séance de cinéma la plus dingue ?
Alors, c'est Le propre de l'homme, mon premier film. J'ai 22 ans, je présente mon premier film à la Cinémathèque française. Donc je me dis, tiens, à 22 ans, je rentre à la Cinémathèque française. Et puis le film a été sifflé pendant 1h30. Ça a été un cauchemar. Le film a été sifflé. Mon père et ma mère étaient dans la salle. Je les ai vus pleurer. Et mon père est mort quelques jours après d'un infarctus. Et je pense qu'il ne s'est pas remis de cette séance de cinéma. Donc ça reste le moment le plus terrible que j'ai jamais vécu, parce que j'ai le sentiment que mon premier film a tué mon père. La seule personne qui m'a remonté le moral après, c'est le projectionniste. Qui, en me rendant les bobines, m'a dit « S'ils vont siffler pendant une heure et demie, c'est que vous faites partie des grands. »
Et il n'avait pas tort.
Écoutez,
combien de films on a vu être sifflés à Cannes ou ailleurs ?
Je ne remercierai jamais assez ce projectionniste dont je ne me souviens pas du nom, parce que j'étais pas... J'ai pris ça comme un cachet d'aspirine. Voilà. Mais c'est vrai que ça restera le plus mauvais souvenir de ma vie.
Et finalement, peut-être que ça vous a donné aussi encore plus la rage de faire une belle carrière derrière.
Je pense que ce film m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Je lui dois finalement beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'un critique a dit « Claude Lelouch, souvenez-vous bien de ce film, de ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler ». Voilà, donc ça m'a donné sûrement la pêche.
Le film à regarder entre potes ?
Bah, écoutez, Amadeus. Milos Forman, qui a été un grand ami avec qui j'ai grandi. On avait pratiquement le même âge. On était ensemble aux Oscars, lui avec Les Amours d'une blonde, moi avec un homme et une femme. Donc c'est un homme que j'aime. Et c'est vrai que c'est un des plus grands metteurs en scène du monde. Amadeus est un chef-d'œuvre absolu. Et voilà, donc il faut le regarder avec des potes parce qu'on peut parler. Et on dit regarde, 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 écoute, regarde.
Que Votre Majesté garde la partition, je l'ai déjà dans ma tête.
Quoi ? Après une seule écoute ?
Je crois que oui, sire. Oui.
Voyons cela.
Il y a un petit défaut, là. Avez-vous essayé ? Ce ne serait pas un peu mieux si... Ou ça ? Ça ? Oui. C'est mieux ? Qu'en dites-vous ?
8 Oscars.
Et oui, non, mais c'est normal. C'est un film magique. Et puis, il y a Mozart.
Ce que j'allais dire, il y a aussi la musique qui a été très importante tout au long de votre carrière.
Oui.
Il y a tout dans ce
plus
film.
Plus que ça, parce que la musique, c'est le langage du divin. C'est le langage de Dieu. Je veux dire que dès que les gens écoutent de la musique, on voit bien qu'ils décollent et qu'ils sont dans une autre dimension. Je veux dire, vous regardez 10 000 personnes à un concert qui chantent, qui dansent, qui tapent dans les mains. Prenez les mêmes à un discours politique, vous allez voir la différence.
C'est l'actualité. Le film qui vous fait retomber en enfance ?
Eh bien, écoutez, Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle a le même âge que moi. On a tous les deux le même âge, on est nés tous les deux en 1937, donc elle m'a accompagné. Et puis comme j'ai 7 enfants, donc je suis allé 7 fois revoir Blanche-Neige avec mes enfants. Et comme j'ai 8 petits-enfants, je l'ai revue 8 fois encore. Et c'est vrai que c'est magique. C'est magique, la musique, ce que ça raconte, c'est cruel. Hein,
c'est cruel.
C'est terrible.
J'ai essayé de le lire à ma fille qui a 3 ans, et en le revoyant et en le relisant, je me suis dit, c'est quand même hyper cruel.
Oui, mais en même temps, ça nous montre ce qui nous attend. Je veux dire, c'est une métaphore parfaite de ce qui attend, et en même temps, il y a les animaux qui sont là. Il y a tout, c'est magnifique. Blanche-Neige, c'est vrai, j'ai le même âge que Blanche-Neige, mais elle a mieux vieilli que moi.
Le film qui vous fait tomber amoureux de son acteur ou de son actrice ?
Bah, Viviane Leigh dans Autant n'emporte le vent. Moi, j'ai vu ce film à la Libération à Paris en 1945, donc je ne suis pas bien vieux, vous voyez. Et puis d'un seul coup, quand on voit Viviane Leigh, on se dit ben, voilà, c'est... Alors jusque-là, je voulais épouser ma mère, et puis quand j'ai vu Viviane Leigh dans Autant n'emporte le vent, j'ai trompé ma mère et je lui ai dit écoute, c'est Viviane Leigh qu'il faut que j'épouse et que je prenne dans mes bras.
Elle est tellement belle dans ce film, cette histoire d'amour, avec Clark Gable.
Oui, et puis c'est une femme moderne, hein. C'est une femme qui est déjà. Elle sait ce qu'elle veut. Moi, j'ai toujours pensé que les femmes étaient des hommes réussis, et c'est vrai que c'est elle la patronne dans le film, c'est elle qui distribue les cartes. Voilà, donc elle est très, très en avance sur son temps.
Votre comédie romantique préférée ?
Bah, Pretty Woman. Julia Roberts, c'est ma Viviane Leigh d'aujourd'hui. Pretty Woman. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman.
I don't believe you, you're not the truth. Et le film que vous avez le plus vu ?
Alors, le film que j'ai le plus vu, ben écoute, évidemment, c'est Chantons sous la pluie, parce que à chaque fois j'ai un coup de blues, c'est ce film que je vois. Je veux dire, là, À chaque fois que je ne vais pas bien, le premier médicament, c'est la musique. Et tout de suite après, chantons sous la pluie. Chantons sous la pluie parce que ça parle à toutes les générations, c'est joyeux, c'est positif. Et puis ça raconte l'histoire du cinéma. Ça raconte la grande histoire du cinéma quand il est passé du muet au parlant. Et puis Gene Kelly, Daniel Auk... Enfin, je veux dire, tous les acteurs du film sont... Non, c'est le film que je vois chaque année.
I'm singing in the rain, just singing in the rain.
Je crois que c'est le film qui est le plus souvent cité dans cette émission.
Oui,
je crois que ça fait partie des plus grands films de l'histoire du cinéma.
Non, moi je pense que c'est la plus grande comédie musicale. Et vous savez, la comédie musicale, c'est l'aristocratie de ce métier. Il n'y a rien de plus dur à faire qu'une comédie musicale quand elle est réussie. Il n'y a rien de plus facile quand c'est naze. Voilà. Mais c'est vrai que... Non, je crois qu'on n'a rien fait de mieux que... Bon, et après, il y a West Side Story, bien sûr, qui a joué un rôle important.
Qui est votre bande originale de film préféré.
Oui.
Bon, ça, c'est cadeau. C'est pour que ça vous reste en tête toute la journée.
Oui, et puis il faut remercier Spielberg.
Oui, vous l'avez vu, sa version.
Qui a eu le courage incroyable de s'attaquer à un chef-d'œuvre et qui a réussi son coup. Voilà, donc ça nous permet de réécouter encore une fois la musique et de redécouvrir cette histoire intemporelle. Non, chapeau, Steven.
Une réplique culte.
Dans Les Tontons Flingueurs, quand ils sont en train de se saouler la gueule et que l'un d'eux dit « il n'y a pas que de la pomme ». Voilà, je trouve que c'est vrai qu'il n'y a pas que de la pomme.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose. Ça ne serait pas des fois de la betterave. Hein ?
Si, il y en a aussi.
Ça s'entend, hein ? Pour terminer, quel serait le titre du film de votre vie ?
Merci la vie.
Qui est un film qui existe.
Merci la vie qui existe. C'est un film de Blier. Voilà, et j'ai été jaloux de ce titre parce que tous mes films auraient pu s'appeler Merci la vie.
C'est vrai que ça aurait pu faire un bon titre de film de Claude Lelouch. En même temps, L'amour c'est mieux que la vie, c'est aussi un sublime titre et c'est votre nouveau film qui sera en salle donc le 19 janvier. C'est votre 50e, donc c'est un film anniversaire qu'il faut absolument découvrir au cinéma.
Europe 1. 14h-15h. Clap. Laurie Choleva.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap comme chaque semaine. On va faire un tour d'horizon des films qui sortent au cinéma. On va parler d'une adaptation poignante, du retour sanglant d'un tueur masqué, mais aussi d'un thriller historique glaçant ou encore une histoire touchante et presque vraie. Alors à mes côtés, Victor Bonnefoy, toujours présent. Il y en a un qui manque à l'appel, c'est Franck Vallière qui sera de retour la semaine prochaine.
Il manque très très fort, Franck Vallière.
Il se manque, tu es triste, tu as le cœur brisé, mais oui. Regarde la charmante Stéphanie Belpech est avec nous du JDD. On est ravis de vous avoir, Stéphanie. Merci d'être
là. Bonjour Laurie.
Alors, avant de commencer à parler des films, un petit mot sur le box-office. Et oui, encore et toujours pour la 4e semaine consécutive, Victor.
Spider-Man No Way Home.
Trône tout en haut du box-office national avec un demi-million de spectateurs supplémentaires. Donc, le héros Marvel cumule désormais 6 134 000 entrées un mois après sa sortie le 15 décembre. Donc, le triomphe continue.
Succès mérité, je le maintiens.
À la 2e place, le très beau en attendant Beau Jungles avec Virginie Efira et Romain Duris qui a séduit 228 476 spectateurs en première semaine. En 3e position, Tous en scène 2 qui se maintient, qui dépasse les 2 millions de tickets vendus en 3 semaines. Et puis un mot, puisque Franck et Victor, c'était votre coup de cœur la semaine dernière, le nouveau film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, qui sur seulement 184 salles, donc c'est pas beaucoup, a mobilisé 116 871 spectateurs.
C'est la meilleure moyenne par copie de
Exactement.
La semaine, c'est le meilleur démarrage et ça fait plaisir justement pour le cinéma de Paul Thomas Anderson, c'est même surprenant vu le nombre de salles qu'il avait, je suis ravi.
Alors on va commencer ce journal des sorties, déjà Ouistreham dont on parlait la semaine dernière en compagnie de Charlotte Gainsbourg est actuellement en salle, je rappelle, c'est l'adaptation du roman de Florence Aubenas sur le quotidien des femmes de ménage sur les ferries. Et cette semaine, le trio de choc, Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette est de retour en salle pour aider les plus jeunes dans Scream 5. On l'attendait quand même avec impatience, ce retour à Woodsboro avec cette nouvelle génération qui doit une nouvelle fois faire face au Ghostface, le tueur masqué, avec un hommage au premier film de Wes Craven.
Arrête, c'est pas drôle, Amber.
Ça te dirait de jouer à un jeu, Tara.
Il s'en est pris uniquement à des gens liés au premier tueur. Je sais pas quel lien il a avec notre passé, mais on se retrouve tous ici.
Bonsoir, Sydney.
Stéphanie Belpech.
Alors moi, j'ai beaucoup aimé, et comme vous le dites très justement, il y a clairement la référence au film d'origine, puisque c'est un spectacle complètement généreux, jouissif, nostalgique, décomplexé, et avec toujours cette mise en abîme qui dissèque un petit peu la mécanique du slasher, avec beaucoup d'humour et d'autodérision, et en même temps, des scènes de meurtre extrêmement brutales, cruelles, sauvages, n'ayons pas peur des mots.
C'est sanglant, ça fait peur.
Mais le film est interdit au moins de 16 ans, là. Il y a quand même une précaution qui est prise, mais bon, les nostalgiques du genre comme nous s'en réjouissent. Et, de voir revenir les trois acteurs qui sont aujourd'hui quinquagénaires quand même, oui. Il faut le dire. Donc, c'est toujours un plaisir. Enfin, moi, j'ai pris énormément de bonheur à
les retrouver. Victor Bonnefoy.
Paris, très étonnant que ce Scream 5e opus qui arrive à la fois à conjuguer la subtilité d'un temps qu'à Tiananmen, à savoir la bêtise crasse d'un adolescent en pleine puberté, et aussi, et ça c'est formidable, le désir et le besoin de se moquer des fans du premier volet dont je fais partie, qui aimaient justement ces références méta au cinéma d'horreur et qui se retrouvent face à quelque chose qui dit clairement dès sa première scène, vous voulez de l'intelligence, vous n'en aurez pas ici, on est cons comme des briques.
Non, mais moi je trouve qu'effectivement le petit tacle très rigolo au cinéma d'horreur à message, c'est ce qu'il dit, un tello façon Hérédité, The Witch, It Follows, Mr Babadook, je trouve très très drôle en fait, et ça, moi je faisais partie des fans de la première heure puisque je suis un peu plus âgée que vous, et j'ai vu le film en salle, et au contraire j'ai l'impression que c'est une Madeleine de Proust qu'on m'offre, je croque dedans et j'en redemande une deuxième en fait.
Alors on écoute le public.
Moi j'ai trouvé ça vachement bien, oui, je trouve que c'est assez méta, non ça marche, je trouve que c'est un film vraiment qui marche bien et que ça conclut bien la saga.
C'est plutôt efficace, la mise en scène n'est peut-être pas au niveau de celle de Wes Craven, mais ça reste ludique et plutôt fidèle à la saga.
Il était super, oui, on a retrouvé tous les acteurs du 1, 2, 3, 4, donc ça fait super plaisir. Après, il y a des scènes vraiment inattendues, donc ça aussi c'est surprenant, parce qu'on est toujours surpris avec Scream, donc c'est top.
Bon, en tout cas, Scream est dans les salles. On va parler d'un autre film, Adieu Monsieur Hoffman, une autre sortie, un thriller historique durant l'occupation à Paris. L'histoire d'un joaillier juif qui confie sa boutique à son collègue, mais qui finalement va être contraint de se cacher dans la cave. Daniel Auteuil, obligé d'obéir à Gilles Lelouch pour survivre, un Gilles Lelouch violent d'une méchanceté inouïe.
Monsieur Hoffman, qu'est-ce que vous faites là ?
J'ai pas réussi à prendre le train. Les Allemands contrôlaient tout le monde.
Ne vous inquiétez pas, Monsieur Hoffman. Vous allez rester caché le temps qu'on trouve une solution.
Tu me payes combien ?
Disons la même chose que ce que vous me donniez avant.
Vous allez enfin pouvoir travailler sur des pierres dignes de ce nom.
Espèce de salopard ! Tu me fais travailler sur des bijoux volés aux Juifs.
Vous n'auriez jamais dû lui proposer cette boutique. Avant, on n'avait rien, maintenant il veut tout.
Victor ?
Alors, assez étonné par l'envie qu'a eu Fred Cavaillé, lui qui justement a été un réalisateur de thrillers dans des grands espaces justement où la caméra pouvait se libérer, créer énormément de mise en scène, de vouloir se recentrer sur un huis clos, d'aller enfermer sa mise en scène dans une tension, enfermée justement dans une cave. Je trouve l'idée assez étonnante. Alors il arrive à en tirer plein de belles choses, notamment de la part de Gilles Lelouch qui pour moi tient le film à bout de bras. Je trouve que Gilles Lelouch est absolument brillant dans ce rôle et me terrifie à plein d'instants, et sa relation même avec Daniel Auteuil ou Sarah Giraudeau fonctionne particulièrement bien. Au-delà de la performance des comédiens, moi je reste toujours un petit peu en retrait parce que je trouve que lui qui aimait justement filmer la grande action se retrouve enfermé et du coup n'a plus grand-chose à filmer. Un peu frustrant mais diablement réussi.
Oui, c'est sûr que le format du huis clos, d'abord c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Donc en fait ça donne un huis clos assez statique. En effet, il réussit à installer un petit peu de tension quand même au sein de ce trio de personnages qui doivent cohabiter. Mais je suis d'accord, en effet, je trouve parfois le rythme un petit peu laborieux pour ma part.
Et puis attendu aussi par instant, il y a des moments où les prochaines péripéties qui arrivent, on se dit « je les ai quand même vu venir depuis 40 minutes ». Quoi.
Tout à fait, et c'est vrai que Daniel Auteuil en retrait, c'est vraiment Gilles Lelouch en anti-héros détestable, parce qu'on le sent complexé, frustré. On se dit « ça y est, il va avoir son moment de gloire », mais c'est en faisant effectivement la collaboration avec les nazis. Et du coup, on arrive quand même à s'attacher à ce personnage qui est quand même odieux.
Bon, bah écoutez ce que vous en avez pensé.
C'est un bon film. En plus, les acteurs, j'adore. Je pense que même je vais revenir une deuxième fois le voir. Excellent. Gilles Lelouch, au top. Franchement, excellent.
La transformation de Lelouch en personnage gentil et fable en salaud, c'est assez intéressant de voir son jeu, là. J'ai bien aimé.
Les trois acteurs principaux, ils jouent vraiment genre hyper bien. Parfois, on est un peu mal à l'aise, mais justement, c'est trop bien joué. Et du coup, on est hyper partagé pendant le film. C'est-à-dire, il est gentil ou il est méchant. Très bon film.
Très bon film. Et puis, le film Placé aussi, c'est un joli premier film. Je voulais vous en dire un mot de Nessim Chikawi qui mêle drame et comédie. Le réalisateur s'est inspiré de sa propre expérience d'éducateur. On suit l'histoire d'Elias qui accepte un job d'éducateur le temps de repasser son concours à Sciences Po et qui va se découvrir une vraie passion pour ces jeunes aux vies compliquées. C'est un film que je vous recommande. Et puis, pour terminer également, le documentaire Jane par Charlotte, le premier film de Charlotte Gainsbourg qui réalise donc un documentaire sur sa mère Jane Birkin. Stéphanie Belpège, vous l'avez vu, vous en avez pensé quoi ?
J'ai trouvé ça bouleversant, vraiment. Déjà, elle prend l'excuse de ce documentaire pour regarder vivre sa mère, c'est ce qu'elle dit. Et en fait, leur relation, leur complicité, leur ressemblance aussi, leur différence, je trouve que tout ça, c'est universel. En fait, c'est la relation entre une mère et sa fille. Au-delà de ce qu'elle représente, des personnalités publiques qu'elles incarnent, on se reconnaît, en fait. C'est très sincère, évidemment. Et c'est à la fois pudique, parce que quand elles se retrouvent face à face, incapables de se dire les sentiments l'une envers l'autre, et ça, c'est merveilleux, et impudique, puisqu'on va dans la maison de Bretagne de Jane, on voit la fille de Charlotte, et même l'évocation de sa sœur aînée décédée, dans des conditions tragiques. Donc il y a quand même tous les tabous qui sont abordés et je trouve ça vraiment très émouvant.
Voilà, donc un film à découvrir au cinéma, surtout si vous êtes fan de la famille Gainsbourg. C'est déjà la fin de ce clap. Merci à tous les deux, Stéphanie Belpège. On va revenir la semaine prochaine.
On revient la semaine
Merci
prochaine,
beaucoup,
hein.
Stéphanie Belpège du JDD. Victor Bonnefoy, je rappelle votre podcast, Pardon le cinéma, excellent podcast
Merci
sur le
beaucoup,
cinéma.
Merci beaucoup, Laurie.
Claude Lelouch était mon invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son 50e film, L'amour, c'est mieux que la vie, qui sera en salle mercredi prochain, le 19 janvier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et comme toujours, continuez d'aller au cinéma et de nous écouter sur Europe 1. Belle journée à vous.
14h-15h, clap.
Laurie Choléva sur Europe 1.